Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chère question morale et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
On n'atteindra la vraie vie qu'à la condition préalable d'avoir pratiqué sur soi ce déchiffrement de la vérité. À la fin de la dernière leçon de son dernier cours au Collège de France, le 28 mars 1984, Michel Foucault analyse ainsi l'ascétisme des premiers chrétiens, à partir notamment des instructions de Dorothée de Gaza, moine et saint du VIe siècle. Il s'agit pour lui de contraster cette éthique chrétienne avec les éthiques grecques auxquelles il vient de consacrer d'importantes recherches autour de ce qu'il appelle le gouvernement de soi et des autres. Plus largement, il s'est attaché à comprendre au long de 18 séances particulièrement denses comment se noue la vérité et la vie dans le monde antique à travers la relation du maître avec ses disciples. Mais on ne peut manquer de lire dans cette formule qui lie indissociablement vraie vie et vérité de soi une sorte d'injonction reflétant l'exigence qui a de plus en plus été la sienne au fil du temps. Avec le courage de la vérité qui donne son titre au cours, ce dernier cours, il est en effet au plus près de lui-même, comme l'écrit le philosophe Frédéric Gros. Il l'est au regard non seulement du sens qu'il entend donner à sa parole publique, comme on le relève habituellement, mais aussi plus profondément du travail de véridiction dont il s'efforce de faire le cœur de son existence. Ultime réflexion donc, à la fois morale et politique, qui unit dans un même mouvement son enquête sur les philosophes grecs et sa propre quête d'intégrité intellectuelle. L'essentiel des leçons apportées cette année-là sur la tension existant entre la pensée platonicienne et le geste cynique, entre la sagesse exigeante et la liberté scandaleuse, entre une recherche de vérité qui met en jeu la vie, puisque Socrate choisit de mourir pour ne pas la renier, et une affirmation de vérité par la vie même qui conduit Diogène à vivre nu et pauvre au cœur de la cité. Le dire vrai, la parésia, pour employer le terme grec dont Michel Foucault décline les diverses modalités, du platonisme au cynisme en passant par le stoïcisme, qui avait nourri son étude du souci de soi 2 ans plus tôt, telle est la signification qu'il a alors voulu donner à sa vie de chercheur et de penseur, lui qui affirmait lors d'un entretien « Mes livres sont pour moi des expériences, dans un sens que je voudrais le plus plein possible, une expérience et quelque chose dont on sort soi-même transformé. » Après avoir évoqué la relation entre la vérité et la vie dans la philosophie grecque, il revient donc sur ce qui la distingue de celle qui prévaut dans l'ascétisme chrétien, selon lequel ce n'est ni dans l'univers platonicien des idées, ni dans l'épreuve cynique de la rupture, que se manifeste la conjonction de la vérité et de la vie, mais dans l'action consistant, je cite, « à déchiffrer la vérité de soi dans ce monde-ci qui est le seul moyen de donner accès à la vraie vie ». Au-delà toutefois des différences qu'il analyse entre les diverses manières de penser ce qu'il appelle « la vraie vie », ce qui est en jeu pour lui, c'est bien la double inscription de la vérité dans la vie et de la vie dans la vérité, à la fois comme un objet d'investigation scientifique et comme une forme d'engagement personnel. À ce moment de son exposé, il s'interrompt cependant. Voilà, écoutez, j'avais des choses à vous dire dans le cadre général de ces analyses, mais enfin, il est trop tard. Alors merci. Cette phrase « il est trop tard » indique simplement que l'heure habituellement prévue pour la leçon, la dernière de l'année, est écoulée. On serait pourtant tenté de la lire aujourd'hui avec une autre intention, plus tragique, comme une sorte de prémonition d'une mort annoncée. Car Michel Foucault a débuté son cours le 1er février en présentant des excuses. « Je n'ai pas pu commencer comme à l'habitude au début de janvier, j'ai été malade, réellement malade. » Et c'est donc encore affaibli qu'il donne son enseignement dans la longue chronologie en ouverture des 10 et écrits, l'ouvrage qui rassemble les nombreuses interventions publiques de celui qui fut pendant plus de 2 décennies son compagnon. Daniel Defer note pour le mois de mars. Il est régulièrement suivi à l'hôpital Tarnier où ses médecins ont l'impression que sa seule question est « Combien de temps me reste-t-il ? Le 9 juin, Michel Foucault est hospitalisé à l'hôpital de la Salpêtrière. Il y meurt le 25. Il est inhumé 4 jours plus tard, à Vendeuvre du Poitou. 2 ans auparavant, il avait rédigé ce qu'il appelait un testament de vie à ouvrir en cas d'accident, comme le rappelle encore Daniel Defer. L'une des 3 recommandations qu'il contenait était « pas de publication posthume ». Cette requête n'a assurément pas été respectée, puisqu'au livre paru de son vivant, assurant sa célébrité internationale, se sont ajoutées les éditions des cours au Collège de France, de conférences données en diverses occasions, notamment à Vincennes, Louvain, Berkeley, McGill, Sao Paulo, ainsi que le recueil de nombreux entretiens et d'essais, ce dont il faut savoir gré à ses légataires. Mais le refus d'une publication posthume, dont on connaît de nombreux exemples, le plus célèbre étant celui de Franz Kafka, dont son ami Max Brod, exécuteur testamentaire, ne tint pas compte, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir lire Le procès, Le château, L'Amérique et La correspondance. Et cependant étonnante dans le cas de Michel Foucault. En effet, dans l'introduction générale du 5e volume des œuvres complètes de Nietzsche, qu'il rédige en 1967, avec Gilles Deleuze, tous deux mettent en cause, à propos des penseurs maudits, disparus brutalement, ces, je les cite, « parents abusifs qui pèsent sur la publication des posthumes » et ils plaident donc pour l'édition du nakhlas, terme qui désigne les textes que laisse un écrivain à sa mort, dans ce cas, un mythique livre inachevé qui aurait pu s'appeler « Der Wille zur Macht », la volonté de puissance. Ce qui valait pour les œuvres du penseur allemand n'était-il donc plus pertinent pour celles du philosophe français ? Concernant ce dernier, outre les multiples volumes produits depuis sa mort il y a 42 ans, il n'est du reste pas impossible que d'autres manuscrits, pour l'essentiel littéralement écrits à la main, soient encore rendus publics à partir des 40 000 feuillets conservés à la Bibliothèque nationale de France, où il est de très loin l'auteur dont les archives font l'objet du plus grand nombre de demandes de consultation. On dispose déjà des 13 cours au Collège de France sous la forme d'ouvrages, et sauf pour les 3 premiers d'enregistrements que les notes préparatoires enrichissent de variantes et de compléments non prononcés. Ainsi, peut-on savoir ce qu'étaient ces choses qu'il avait encore à dire lorsqu'il dut s'interrompre lors de son ultime leçon. Le manuscrit comporte en effet un développement final que, faute de temps, il n'a pas pu présenter oralement. Il y revient sur son projet de penser la question de l'être et de la vérité au-delà de la métaphysique en se concentrant sur le rapport à soi tel qu'il se déploie dans l'éthos défini par les différentes philosophies qu'il vient d'étudier. Mais il corrige ce qui pourrait limiter au seul domaine moral cet exercice de la vérité sur soi-même en affirmant que cet exercice se fonde sur le courage de la vérité. Cette affirmation inscrit résolument son propos dans le domaine politique et non plus seulement moral, car il s'agit bien de dire vrai face au pouvoir, quels que soient les risques encourus. Cette articulation de la morale et de la politique à travers une éthique qui est à la fois une introspection intime et une énonciation publique est une tentative de finalement réunir ce qui l'a animé pendant les 4 dernières années de son enseignement magistral, l'herméneutique du sujet, telle qu'elle est caractérisée par le souci de soi, et la pratique de la laiturgie, ainsi qu'il définit la production de la vérité. Reste toutefois une dernière ambiguïté à lever à partir de son cours. Car parmi les définitions qu'il avait données de la vérité dans la pensée antique, comme dévoilement, pureté, rectitude, il y en avait aussi une 4e, l'identité, qu'il disait immuable et incorruptible. Une telle définition, en quelque sorte absolutiste, ne faisait donc pas place à l'expérience du changement du regard sur le monde, de la transformation de soi et, au fond, de la critique. C'est ce qu'entend par conséquent amender une ultime remarque à la fin du manuscrit, mais non prononcé donc lors du cours. Mais ce sur quoi je voudrais insister pour finir, c'est ceci. Il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité. La vérité, ce n'est jamais le même. Il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. Formulation étrange, opaque, incertaine. Qu'est-ce que cet autre monde et qu'est-ce que cette vie autre ? S'agit-il d'imaginer la possibilité d'un monde autre que celui que nous connaissons sous la forme d'une utopie réalisable, comme dans la pensée platonicienne ? Et s'agit-il de faire l'expérience d'une autre vie que celle qui est la nôtre, sous la forme de pratiques transgressives, comme dans la philosophie cynique ? Et quelle est cette altérité ? Signifie-t-elle un rapport abstrait à la vérité ou bien implique-t-elle une véritable relation à l'autre, aux autres, qui a semblé reléguée au long du cours, malgré le sous-titre « Le gouvernement de soi et des autres ». Les engagements des dernières années, non seulement sur la question des prisons, mais aussi autour de la révolution iranienne, contre la répression polonaise, en faveur de travailleurs africains, pour le sauvetage des boat people vietnamiens en mer, pourraient plaider pour la seconde option, autrement dit, des engagements vers les autres, à moins qu'il ne s'agisse là, une fois encore, de cette séparation tracée entre le monde académique et l'espace public, entre le travail en bibliothèque et l'activité de militant, entre les conférences prononcées en amphithéâtre, comme ici, et les tribunes écrites pour les journaux. Mais pourquoi ouvrir mon cours sur ce long développement autour de la dernière leçon de Michel Foucault au Collège de France, et même plus précisément sur ses derniers mots, tels qu'ils ont été prononcés ou écrits à la veille de sa mort? Pourquoi, en somme, commencer par la fin? L'occasion de mon enseignement n'est-elle pas fournie, au contraire, par le 100e anniversaire de sa naissance, puisque Paul Michel, selon le prénom donné par ses parents, a vu le jour le 15 octobre 1926. Si j'ai choisi cette entrée en matière, c'est que sans céder à l'illusion de faire rétrospectivement de son ultime message une sorte de testament, il demeure indiscutable qu'il y expose de manière à la fois émouvante et démonstrative le lien qu'il avait progressivement établi entre quête de vérité et sens de la vie à partir de sa propre expérience. Mais il y révèle aussi les efforts pour tenter de renouer la morale, à distance de laquelle il s'était tenu jusqu'à ce qu'il ait trouvé avec la subjectivation éthique une voie féconde, et la politique, dont on avait pu, à l'inverse, dire qu'il s'en était éloigné avec ce qu'on appelait son retour au grec. Dans le cadre de ma chaire, qui est consacrée à l'étude des questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines, il y avait là un territoire à arpenter. Cet argument suffit-il pourtant à justifier de consacrer un cours entier à un seul auteur, rompant apparemment avec le cycle engagé autour des désordres du monde, les épreuves de la frontière, la faculté de punir, les formes de la violence? C'est donc à cette interrogation que je voudrais essayer de répondre maintenant. Présence de Foucault. Elles ne font guère de doute dans le champ intellectuel et scientifique aujourd'hui. Même s'il faut toujours se montrer prudent en matière de quantification de l'influence d'un auteur, il est difficile de contester que Michel Foucault soit pour l'époque contemporaine et au niveau mondial de loin le plus cité dans les sciences humaines et sociales, toutes nationalités confondues. Le moteur de recherche Google Scholar, qui enregistre les publications académiques dans toutes les disciplines, fait état de 1 366 000 citations de ses travaux dans la littérature, dont 370 000 depuis seulement 2020, la seule version anglaise de « Surveiller et punir » ayant été mentionnée 115 000 fois. Quant à l'indicateur favori des champions de la scientométrie, le H-index, qui mesure le nombre N de textes cités au moins N fois, le sien est de 308, ce qui est là encore le plus élevé connu. Et pour donner à ces chiffres une signification évolutive et comparative, l'application Ngram Viewer, qui analyse la fréquence des mots, n'importe quel mot, au cours du temps, dans les sources imprimées, montre que l'apparition de son nom est croissante au fil des décennies, avec une progression plus rapide à partir des années 2010, et qu'il est aujourd'hui cité 1,3 fois plus que Hannah Arendt, 2,1 fois plus que Judith Butler, 2,3 fois plus que Pierre Bourdieu, 2,9 fois plus que Edward Said, 3 fois plus que John Rawls, 3,3 fois plus que Jürgen Habermas et 3,4 fois plus que Frantz Fanon, pour s'en tenir à quelques grandes figures internationales de la pensée de la seconde moitié du XXe siècle. Quelques réserves, évidemment, qu'on puisse avoir sur ces instruments statistiques de publimétrie, la convergence des différents éléments signe un rayonnement international de l'œuvre de Michel Foucault, qui d'une part n'a pas d'équivalent, et d'autre part ne se dément pas. Présence il y a, mais présence au pluriel, car les références à ses travaux se trouvent dans des publications philosophiques, historiques, anthropologiques, sociologiques, économiques, juridiques, politiques, linguistiques, littéraires, aussi bien que dans les publications sur les questions raciales et coloniales, sur le genre et la sexualité, sur la santé publique et l'intelligence artificielle. Lui qui se voulait intellectuel spécifique, terme qu'il avait créé pour rendre compte de nouvelles formes d'engagement autour d'enjeux singuliers dans des secteurs déterminés, comme la psychiatrie ou la prison dans son cas, en est paradoxalement venu à occuper la place d'un intellectuel universel, figure dont il disait non sans une certaine condescendance qu'elle s'octroyait, je cite, « le droit de parler en tant que maître de vérité et de justice ». Certes, sur le terrain des luttes sociales, il était cet intellectuel spécifique qu'il imaginait. Mais dans le champ des sciences sociales et des humanités, il est devenu, malgré lui, ou peut-être pas tout à fait d'ailleurs, un intellectuel universel. Cet universalisme n'était cependant pas celui d'une théorie, il était celui d'une méthode, ou plutôt d'une façon de penser. Against the grain, dirait-on en anglais, ce qu'on pourrait traduire par contre l'évidence, contre ce que l'on croit savoir, moins du reste par esprit de contradiction que par volonté d'atteindre une certaine vérité des choses. Comme l'écrit le philosophe britannique David Owen, l'œuvre de Michel Foucault se caractérise par un éthos de réflexion autocritique et d'expérimentation conceptuelle qui cherche continuellement à transformer les limites de sa pensée et à développer une compréhension de sa propre activité. Rares sont d'ailleurs les auteurs qui, autant que lui, ont rendu compte de leur méthode, au gré des articles, des conférences, des entretiens, comme dans sa réponse à une question sur l'évolution de sa réflexion sur le pouvoir et le savoir. « Je suis un expérimentateur et non pas un théoricien. J'appelle théoricien celui qui bâtit un système général, soit de déduction, soit d'analyse, et l'applique de façon uniforme à des champs différents. Ce n'est pas mon cas. Je suis un expérimentateur, en ce sens que j'écris pour me changer moi-même et ne plus penser la même chose qu'auparavant. » L'expérimentation, donc, c'est ce qui explique qu'après avoir enseigné la psychologie, il se soit tourné vers l'histoire des pratiques discursives, qu'après avoir été attiré par la phénoménologie, il l'ait rejeté pour des approches de rupture à partir d'expériences limites, qu'après avoir privilégié une lecture archéologique du savoir, il ait préféré opter pour une démarche généalogique dans son enquête sur le pouvoir, qu'après avoir longtemps concentré son attention sur des textes techniques des 18e et 19e siècles, il ait décidé de revenir vers les philosophes de l'Antiquité, et qu'après avoir réfléchi sur le souci de soi, il se soit penché sur le courage de la vérité. Assurément, la forme didactique que suppose l'enseignement au Collège de France appelait ses renouvellements thématiques, puisque chaque cours doit être original. Mais pour Michel Foucault, il s'agissait de bien plus que de changer d'objet, c'était sa manière de penser qui se transformait, allant même jusqu'à procéder sur le mode scientifique de l'essai-erreur, avançant un concept ou une idée, puis les corrigeant, parfois d'un cycle à l'autre, comme dans le cas de la substitution du biopouvoir par la gouvernementalité, parfois d'une leçon à l'autre, comme dans le cas du passage de la vérité comme identité à la vérité comme altérité. Dans la séance du 31 janvier 1979 du cours Naissance de la biopolitique, annonçant son programme de l'année, qu'en réalité il composait au fil des séances, il s'adressait ainsi à son public avec humour. Sous réserve de changement, parce que vous savez, je suis comme l'écrevisse, je me déplace latéralement, je pense, j'espère, il se peut que j'étudie successivement le problème de la loi et de l'ordre, le problème de l'État et dans son opposition à la société civile, ou plutôt l'analyse de la manière dont on a joué et dont on en a fait jouer cette opposition. Et alors enfin, si la chance me sourit, on arrivera au problème de la biopolitique et de la vie, c'est-à-dire le titre de son cours. Au lieu de quoi, l'essentiel du cours porta cette année-là sur l'économie, sur le mercantilisme, le capitalisme et les néolibéralismes états-uniens et allemands, sur Keynes, Hayek et Schumpeter, tandis que la loi et l'ordre s'effaçaient et que l'État demeurait comme en filigrane, la biopolitique et la vie disparaissant, elles, définitivement, après que leur étude ait été promise depuis 3 ans. Il ne faisait donc qu'appliquer sa stratégie de l'écrevisse, se déplaçant latéralement vers ce qui l'intéressait et, dans ce mouvement insolite, renouvelant significativement la façon de penser le libéralisme économique. À une question qui lui était posée en 1984 sur ce qui expliquait que, bien qu'ayant dit qu'il travaillait à une suite au premier volume de son Histoire de la sexualité paru en 1976, Ce n'est que huit ans plus tard qu'il publiait 2 ouvrages assurément différents de ce qu'il avait déclaré, il reconnut s'être trompé. J'ai rêvé qu'un jour viendrait où je saurais à l'avance ce que je voudrais dire et où je n'aurais plus qu'à le dire. Ça a été un réflexe de vieillissement. J'ai imaginé que j'étais arrivé enfin à l'âge où on n'a plus qu'à dérouler ce que l'on a dans la tête. C'était à la fois une forme de présomption et une réaction d'abandon. Or, travailler, c'est entreprendre de penser autre chose que ce qu'on pensait avant. Observation qui vaut pour toutes les recherches en sciences sociales et en humanité. C'est dans le travail d'écriture que la pensée nourrit pour les anthropologues et les sociologues de leur enquête empirique prend forme progressivement, laborieusement parfois. Dans un entretien de 1972, en marge de l'Histoire de la folie, au cours duquel son interlocuteur tentait de le confronter à une phrase qu'il avait prononcée quelques années plus tôt, il répondit, à l'évidence agacé, et non sans une certaine crânerie, « Je pense pour oublier. Tout ce que j'ai dit dans le passé est absolument sans importance. On écrit quelque chose quand on l'a déjà fortement usé dans sa tête. » La pensée exsangue, on l'écrit. Ce que j'ai écrit ne m'intéresse pas. Par conséquent, ajoutait-il, je ne me sens ni attaqué, ni critiqué, ni embarrassé par le fait que je ne dis plus les mêmes choses qu'avant. Pensée mouvante, donc, fluctuante aussi, faite de tâtonnements et de retournements, mais pensée libérée de ses propres contraintes, ou plutôt pensée qui se libère elle-même, qui s'autorise toutes les libertés. Au début de l'archéologie du savoir, qui date de 1969, il s'en était expliqué. Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même, c'est une morale d'état civil. Elle régit nos papiers, qu'elle nous laisse libres quand il s'agit d'écrire. Une brève digression ici, sur le problème de la traduction. La version anglaise du livre, qui est bien sûr la plus utilisée et la plus citée internationalement, propose « Do not ask who I am, and do not ask me to remain the same. Leave it to our bureaucrats and our police to see that our papers are in order. At least spare us their morality when we write. » Autrement dit, la phrase « C'est une morale d'état civil, elle régit nos papiers » devient littéralement « Laissez cela à nos bureaucrates et à notre police pour qu'ils voient si nos papiers sont en règle. » Et la suivante, qu'elle nous laisse libre quand il s'agit d'écrire, devient mot à mot, au moins épargnez-nous leur morale quand nous écrivons. Ainsi, à la place du banal état civil, on a plus menaçant les bureaucrates et la police, Et par un déplacement théorique, au lieu de liberté, il est question de moralité. Ce n'est bien sûr là que l'un des nombreux exemples qui, dans l'œuvre foucauldienne, vérifie l'expression italienne « traduttore, traditore ». Traducteur, traître. De tels arrangements dans le texte original sont d'ailleurs d'autant plus préjudiciables que la version anglaise est parfois utilisée pour des traductions dans d'autres langues. Tel est le cas notamment en Chine, où le traducteur accrédité des ouvrages du philosophe français me confiait que, ne lisant pas notre langue, il avait travaillé sur la version anglaise. Les évolutions et les hésitations de la pensée de Michel Foucault, parfois au demeurant quelque peu surjouées, ne doivent cependant pas tromper. Il ne s'agit pas d'inconséquences ou d'incohérences. Il s'agit pour lui d'être sans cesse au plus proche de l'objet qu'il s'efforce d'appréhender et de la thèse qu'il veut défendre. Un tel exercice intellectuel suppose une sorte de travail bachelardien visant à repérer et récuser les préjugements, ceux des autres comme les siens propres. Ainsi que l'affirmait en effet l'auteur de la formation de l'esprit scientifique, Gaston Bachelard, en 1938, je le cite, « Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. » Il poursuivait avec un sens remarquable de la formule « Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque ce qu'on devrait savoir. » Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. Rappeler ainsi Gaston Bachelard n'est certainement pas infondé si l'on se souvient que le philosophe et médecin Georges Canguilhem lui succéda en 1955 à la Sorbonne comme directeur de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques et devint plus tard rapporteur de la thèse principale de Michel Foucault soutenue en 1961. Le doctorant qu'il était demeura d'ailleurs fidèle à son professeur puisqu'il dira dans sa leçon inaugurale prononcée en 1970 au Collège de France « C'est à lui que je dois d'avoir compris qu'on pouvait, qu'on devait faire l'histoire de la science » comme un ensemble à la fois cohérent et transformable de modèles théoriques et d'instruments conceptuels, et auquel il consacrera le dernier texte qui reçut son imprimatur en 1984, « La vie, l'expérience et la science », dans le cadre d'un hommage à l'auteur de son grand livre, Georges Canguilhem, « Le normal et le pathologique ». Cette filiation, dont la loyauté s'inscrit ainsi dans la temporalité de la présence au Collège de France, n'est pas seulement institutionnelle, elle est aussi et surtout intellectuelle. Mais s'il ne fait aucun doute que l'œuvre de Michel Foucault, tout au moins sa première partie sur les pratiques discursives, s'inscrit dans l'héritage de l'étude par Gaston Bachelard des obstacles épistémologiques et de l'analyse par Georges Canguilhem des discontinuités comme « manière de faire », il n'en reste pas moins que son histoire des systèmes de pensée, titre de sa chaire, toute redevable qu'elle est à ces deux philosophes, n'en est pas moins profondément originale par son approche sceptique plutôt que normative des sciences. À la différence de ses maîtres en épistémologie, il questionne les valeurs et les institutions, y compris de savoir, ce en quoi il se révèle nietzschéen. Et si comme eux, il ne cesse de s'interroger sur ce qui semble aller de soi, c'est moins pour rectifier les erreurs que pour analyser comment elles révèlent des modes de connaissance et des régimes de vérité. Une illustration bien connue en est l'argument central de la volonté de savoir, qui conteste l'hypothèse répressive, comme il l'appelle, concernant la sexualité dans les sociétés occidentales depuis le XVIIe siècle. Qu'est-ce que ce discours répété à l'envi d'une censure de tout ce qui touche au sexe, d'une idéologie victorienne ayant envahi les foyers autant que l'espace public, d'un désir érotique condamné au profit de l'acte reproductif au sein de couples légitimes, d'un contrôle des plaisirs de la chair afin de mieux mettre en œuvre l'exploitation capitaliste de la forme de travail, s'enquiert Michel Foucault. Son propos n'est pas de nier l'existence d'une répression de la sexualité. mais de comprendre l'insistance à la proclamer. La question que je voudrais poser, écrit-il, n'est pas « pourquoi sommes-nous réprimés ?» mais « pourquoi disons-nous avec tant de passion, tant de rancœur contre notre passé le plus proche, contre notre présent et contre nous-mêmes, que nous sommes réprimés ?» Et plus explicitement encore, il observe que s'il est, je le cite, « légitime à coup sûr de se demander pourquoi pendant si longtemps on a associé le sexe et le péché », il faudrait se demander aussi pourquoi nous nous culpabilisons si fort aujourd'hui d'en avoir fait autrefois un péché. En d'autres termes, conclut-il, les doutes que je voudrais opposer à l'hypothèse répressive ont moins pour but de montrer qu'elle est fausse que de la replacer dans une économie générale des discours sur le sexe à l'intérieur des sociétés modernes depuis le XVIIe siècle. L'enquête découlant de ces doutes le conduit à explorer le déploiement d'une nouvelle technique de gouvernement des subjectivités, l'aveu. L'aveu qui n'est plus seulement confiné dans le secret du confessionnal, mais se diffuse dans de nombreux domaines, de la pédagogie à la médecine, de la justice à la littérature. C'est le développement en Occident de ce qu'il appelle une scientia sexualis, science de la sexualité, dont la psychiatrie puis la psychanalyse se font les entrepreneurs, comme un contrepoint à l'ars erotica, l'art érotique, de l'Orient. Ainsi se met en place, explique-t-il, une économie politique de la volonté de savoir, ce qui donne son titre à l'ouvrage. À travers cet exemple, on voit comment le geste de Foucault consiste à ramener des concepts considérés comme évidents et spontanés à leur matrice institutionnelle, sociale, culturelle et discursive, ainsi que l'explique le philosophe Mathieu Pott-Bonneville. Du thème rebattu de la répression de la sexualité, on est passé à une problématisation de la relation au désir, à la connaissance, à la vérité et à soi, qui affecte de nombreux aspects de la vie en société. Surtout, l'enquête n'a pas consisté à porter un jugement sur un fait, la répression de la sexualité ou même l'inflation de discours, l'affirmant ou la dénonçant, mais à le resituer dans un espace social et mental pour en éclairer les significations, à savoir la transformation des subjectivités à l'époque moderne, dont nous sommes plusieurs siècles plus tard les héritiers. Il y a là une méthode de portée générale qui peut être mise en œuvre pour de nombreux objets en substituant à la posture classiquement normative du philosophe un regard critique. Présence de Foucault, donc. Il faut entendre cette expression dans un autre sens. Non seulement le fait que son œuvre et sa méthode soient encore et peut-être plus que jamais présentes dans les sciences sociales et les humanités, comme je viens de le rappeler, mais aussi le fait que son travail et sa pensée entretiennent un rapport étroit avec le présent. Et là encore, il faut utiliser un pluriel, car il s'agit de présents multiples. Présent des moments où il donne ses cours, où il publie ses livres, où il réalise ses entretiens, qui ont pour contexte des événements nationaux et internationaux. Présent des conjonctures, des pays où il se rend et se trouve pris dans les aléas de la vie sociale et politique locale, de la Suède social-démocrate en 1955, à la Pologne communiste en 1958, de la Tunisie en révolte en 1968, à l'Iran en révolution en 1978. Présent des circonstances aussi, dans lesquelles il se trouve lui-même impliqué avec la participation à la nouvelle université de Vincennes en 1968, à la suite des événements de mai dont il s'est tenu éloigné. La création du groupe d'information sur les prisons en 1971 pour faire connaître les réalités de la condition carcérale. L'engagement dans l'opération Un bateau pour le Vietnam en faveur des Boat People en 1978. La protestation contre le silence du gouvernement socialiste français au moment de l'instauration de la loi martiale à Varsovie pour combattre Solidarność en 1981. Présent des événements historiques qu'il étudie, la répression de la révolte des nu-pieds en Normandie en 1639, au début du cours sur les théories et institutions pénales, l'exécution par écartèlement du régicide d'Amiens en 1757 en ouverture du livre « Surveiller et punir », les assassinats de sa mère, sa sœur, son frère, perpétrés par Pierre Rivière en 1835, donnant la matière de son séminaire fermé. Présent enfin d'électrices et d'électeurs, auditrices et auditeurs, autrices et auteurs qui, au fil des années, et donc aussi aujourd'hui, font l'expérience de découvrir ou de redécouvrir Michel Foucault. Ses multiples présents lui confèrent ainsi autant de formes de présence dans des temporalités différentes et hétérogènes. C'est dans le fameux texte de 1984, « Qu'est-ce que les Lumières ?», qu'il aborde le plus frontalement la question du présent. On sait que cet essai est écrit exactement 2 siècles après celui éponyme de Kant, « Was ist Aufklärung ?». Le philosophe allemand y répondait dans la revue Berlinische Monatsschrift à cette question qui avait été adressée à la communauté intellectuelle de l'époque par un pasteur luthérien appartenant à une société secrète qui s'auto-désignait comme les Amis des Lumières. L'intervention de Michel Foucault est assurément un hommage à celui dont il avait introduit et traduit l'anthropologie, donc Kant, dans 2 volumes séparés pour la soutenance à la Sorbonne de sa thèse complémentaire sous la direction de Jean Hippolyte, auquel il succéda au Collège de France. D'emblée, il affirme dans ce texte que la grande originalité de la réflexion de Kant est qu'elle pose, je le cite, « la question philosophique du présent ». Certes, reconnaît-il, ce n'est pas la première fois que la pensée philosophique cherche à réfléchir sur son propre présent. Il y a eu une conception du présent comme appartenant à un certain âge du monde, tel qu'on le trouve dans le politique de Platon. Il en a eu une autre, s'efforçant d'y déchiffrer des signes annonciateurs d'un événement prochain, dont un exemple est la Cité de Dieu d'Augustin. Il y a enfin eu celle visant à l'analyser comme un point de transition vers l'aurore d'un monde nouveau, ainsi que le décrit Vico dans les principes de la philosophie de l'histoire. Pour Michel Foucault, cependant, Kant donne au présent un sens nouveau, qui ne tente pas de le relier à ce qui est passé ou bien à ce qui doit advenir. Je cite Michel Foucault, « Il ne cherche pas à comprendre le présent à partir d'une totalité ou d'un achèvement futur, il cherche une différence. Quelle différence aujourd'hui introduit-il par rapport à hier ? Autrement dit, sa quête concerne la pure réalité, pure actualité. Mais quelle est donc cette différence dont il fait la clé de lecture du présent ? Et quelle est cette actualité ? La différence est selon lui tout entière inscrite dans la première phrase, si souvent citée et d'ailleurs si variablement traduite, du texte de Kant. Les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui-même. La suite vient expliquer les 2 mots essentiels, minorité et imputé. La minorité, écrit-il, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. C'est à lui seul qu'est imputable cette minorité, dès lors qu'elle ne procède pas du manque d'entendement, mais du manque de résolution et de courage nécessaire pour se servir de son entendement sans la tutelle d'autrui. La différence, c'est donc ce passage de l'état de minorité à l'état de majorité, si l'on peut dire. C'est la transition d'un temps où les sujets ne pensent pas par eux-mêmes, mais s'en réfèrent à l'autorité du souverain, du pasteur, du médecin ou du percepteur, pour savoir ce qu'ils doivent penser et faire. À un temps où ils ont le courage d'acquérir la maturité qui leur permet de se libérer de ce joug politique, moral, intellectuel et administratif. Cette différence caractérise donc le présent comme actualité, c'est-à-dire comme basculement dans la modernité, ou plus précisément comme sortie d'un monde ancien dans lequel les sujets étaient prisonniers de leur minorité. La réalisation concrète de cette actualité, c'est la Révolution française, pour laquelle Kant se montre enthousiaste, au moins en partie, au moins s'agissant des premières années, car il y voit l'avènement pacifique d'une souveraineté populaire en quête d'un ordre constitutionnel et même la reconnaissance des êtres humains en tant que fin et non en tant que moyen. Elle est une sortie de la minorité dans laquelle le peuple était maintenu. En fait, dès le 5 janvier 1983, donc une année plus tôt, dans la première leçon du cours « Le gouvernement de soi et des autres », Michel Foucault avait déjà engagé cette réflexion sur le texte de Kant. Ce qui fait sa singularité, déclarait-il, c'est la question du présent, c'est la question de l'actualité, c'est la question de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce que ce maintenant à l'intérieur duquel nous sommes les uns et les autres et qui est le lieu, le point duquel j'écris. Avec plus loin cette précision, qu'est-ce qui dans ce, qui, dans ce présent fait sens actuellement pour une réflexion philosophique. Il y a souvent chez lui, lorsqu'il étudie un texte, Michel Foucault, ou plutôt faudrait-il dire lorsqu'il se passionne pour un texte, une manière de faire dire à son auteur ce que lui-même veut dire, de le tirer dans le sens de sa propre réflexion, de transformer ce qui semble une herméneutique interprétant l'original en une heuristique qui s'en éloigne pour donner libre cours à sa propre réflexion. Non seulement il en était conscient, mais il le revendiquait. N'est-ce pas justement une manière d'actualiser le philosophe de Königsberg? Assurément, l'actualité est bien plus un thème foucauldien qu'un thème kantien. Il ne l'a cependant pas toujours été explicitement, et l'on pourrait suggérer que Michel Foucault s'est progressivement éveillé à l'événement sur la base non pas de ses lectures, mais de son expérience, notamment à partir de 1968, et probablement beaucoup moins en lien, comme on pourrait le penser, avec les manifestations et les grèves du printemps en France, qu'avec les protestations des étudiantes et étudiants et la répression du régime en Tunisie, où il vivait et enseignait. Comme son biographe Didier Héribon l'observe, lui qui s'était tenu à l'écart de la politique est soudainement rattrapé par elle. Dans ses entretiens ultérieurs, Michel Foucault dira combien le mouvement estudiantin tunisien, né en soutien au peuple palestinien après l'occupation de ses territoires par les militaires israéliens, puis au peuple vietnamien sous les bombes de l'armée états-unienne, l'avait inspiré, lui faisant découvrir un courage, ce qu'il appelait une spiritualité, une énergie morale de ces jeunes protestataires et lui offrant pour la première fois une véritable expérience politique, comme il le disait. Par comparaison, il se déclara plutôt surpris, étonné, même déçu, parce qu'il l'avait vu sur la scène française quelques mois plus tard. De retour à Paris, il devient néanmoins une figure intellectuelle majeure qui s'implique dans toute une série de mouvements sociaux et politiques. Dans un entretien pour une revue japonaise à l'occasion d'un séjour à Tokyo en 1978, il livre un élément éclairant sur les choix de ses thèmes de recherche. Dans mes livres, j'essaie de saisir un événement qui me paraît important pour notre actualité, tout en étant un événement antérieur. Il en donne pour exemple la folie. Il y a eu à un moment donné un partage entre la folie et la non-folie. Il y a eu à un autre moment une certaine manière de saisir l'intensité du crime et le problème humain posé par le crime. Tous ces événements, il me semble que nous les répétons. Nous les répétons dans notre actualité. C'est cette actualisation du passé dans le présent qui nourrit un désir de la recherche et conduit en retour à une exploration qualifiée selon les périodes d'archéologique ou de généalogique. Exploration qu'on pourrait alors concevoir symétriquement comme une actualisation du présent dans le passé. L'actualité n'est donc pas véritablement, ou en tout cas pas seulement, le moment vécu maintenant, mais une boucle temporelle dans laquelle le passé et le présent se font écho. Je cite, « J'essaie de saisir quel est l'événement sous le signe duquel nous sommes nés et quel est l'événement qui continue à nous traverser. » On peut noter qu'ici, contrairement à l'usage habituel, l'événement pour lui n'est pas un point dans l'histoire, un surgissement qui produit une certaine transformation dans un état du monde ou une expérience de soi. Il a une durée. Il est une période qui s'étale dans le temps en caractérisant un état du monde ou une expérience de soi. Fait notable, à cette époque, soit 6 années avant le texte sur les Lumières, Michel Foucault attribue cette fois à Nietzsche et non à Kant la paternité de la pensée sur l'actualité. C'est Nietzsche qui, le premier, je crois, dit-il, a défini la philosophie comme étant l'activité qui sert à savoir ce qui se passe et ce qui se passe maintenant. Cette observation, il l'avait déjà faite encore 5 années plus tôt. La philosophie jusqu'à Nietzsche avait pour raison d'être l'éternité, il a introduit l'aujourd'hui dans le champ de la philosophie. On pourrait s'étonner, d'ailleurs, au vu du titre de son livre, le livre de Nietzsche, « Considération inactuelle », de faire de son auteur le père d'une théorie de l'actualité. Mais il s'agit encore là d'un problème de traduction. Dans la mesure où « Unzeitgemäß », généralement rendu en français par « inactuel », dans l'ouvrage qui réunit les quatre essais de Nietzsche, signifie en réalité « intempestif », inopportun, en référence d'ailleurs à une actualité contre laquelle il vitupère. Tel est significativement le cas dans la première de ces considérations dites inactuelles en français, qui s'ouvre sur une critique acerbe du sentiment de supériorité de l'Allemagne au lendemain de la défaite de la France en 1871. Il faut d'ailleurs bien reconnaître que Nietzsche est plus que Kant un philosophe du présent. Mais revenons à Michel Foucault. Il est intéressant que le mot « actualité », auquel il accorde une importance croissante à la fin de sa vie, ne se trouve pas dans les index des ouvrages et des cours, mais seulement dans ceux des « dits et écrits », qui réunissent donc ses entretiens et des prises de position. Il y a probablement à cela une double raison éditoriale. D'abord, l'occurrence du mot apparaît essentiellement dans des entretiens et des articles plutôt que dans ses livres et ses enseignements. Ensuite, l'émergence de la problématique correspondante dans l'œuvre est non seulement tardive, mais tardivement reconnue. Il semble d'ailleurs que, plus encore qu'à l'actualité comme objet de l'enquête foucauldienne autour de Kant, c'est à l'actualité comme arrière-plan de la pensée foucauldienne qu'était sensible le public qui se pressait au Collège de France. C'est ce que souligne François Ewald, qui fut son assistant. Si ses cours avaient tellement de succès, relève-t-il, je le cite, ce n'était pas seulement pour la matière qui était traitée, c'était aussi et peut-être surtout parce qu'à travers ce dont il traitait et la manière dont il le faisait, on avait l'impression d'une lecture de l'actualité. Cette actualité qui était l'environnement temporel et historique des cours. On peut certes le comprendre s'agissant de la folie dans un temps où la psychiatrie se trouvait mise en cause, en particulier par l'antipsychiatrie, à l'égard de laquelle Michel Foucault avait toutefois pris ses distances, ou de la prison, à un moment où des révoltes se produisaient dans les établissements pénitentiaires, avec le soutien d'intellectuels parmi lesquels il jouait lui-même un rôle prééminent. Il faut néanmoins noter un paradoxe dans cette impression que ses cours offraient une lecture de l'actualité, puisqu'il n'y était pratiquement jamais question des faits de son temps, avec quelques exceptions, comme l'évocation de l'agonie du caudillo Francisco Franco, que dans la leçon du 17 mars 1976, il présente comme, je le cite, « un petit et joyeux événement ». Ou la présentation de la politique sociale du président Valéry Giscard d'Estaing, dont il critique longuement dans la leçon du 7 mars 1979 le projet d'impôt négatif jugé producteur d'une population assistée. Hormis ces quelques cas, Michel Foucault se tient, dans ses cours comme dans ses livres, hors du contemporain, et les séances, comme les ouvrages sur l'histoire de la folie et sur la naissance de la prison, s'achèvent au XIXe siècle. Mais on le lisait et on venait l'écouter car il était de plus en plus présent dans l'espace public et les différentes sphères du discours n'étant pas imperméables, les positions du professeur dans les médias sur de nombreux sujets faisaient entrer dans l'institution, le Collège de France, un peu de son activisme. Donc, présent, événement, actualité, ainsi pourrait-on définir la temporalité dans laquelle Michel Foucault inscrit sa pensée. Cependant, outre la détermination de l'événement qui ne semble pas conçu comme une rupture dans un déroulement normal des faits, il existe une tension entre le présent et l'actualité, parfois traités comme équivalents, parfois pris dans un sens distinct, ce que relève le flottement entre les deux textes qui traitent de l'Aufklärung, ainsi que le montre la philosophe Judith Revel. Dans le cours de 1983, ce moment est décrit comme une période qui se désigne elle-même, une période qui formule elle-même sa propre devise, sa citation. Elle se situe, je cite encore, par rapport à l'histoire générale de la pensée, de la raison, du savoir. Elle sait reconnaître sa situation historique. Autrement dit, l'analyse relève d'une forme assez classique d'historicisation. Mais dans l'article de 1984, il n'en est plus question. Et la validité de cette représentation se trouve même mise en cause, car il faut envisager, écrit-il, la modernité plutôt comme une attitude que comme une période de l'histoire. Et cette attitude, c'est un mode de relation à l'égard de l'actualité, une manière de penser et de sentir, une manière aussi d'agir et de se conduire. Autrement dit, l'analyse relève désormais d'une anthropologie historique et non plus d'une historicisation. Alors, période ou attitude, une fois encore, la pensée est mouvante. Sans s'arrêter cependant à ces hésitations théoriques, ce qu'on doit retenir de la lecture très personnelle et du reste contestée qu'il a fait du texte de Kant, c'est au moins deux choses. Premièrement, plutôt qu'une étude d'universaux comme elle a longtemps été ou qu'une analytique du langage comme elle est devenue dans le monde anglo-saxon, la philosophie peut être une enquête sur le présent et sur l'actualité, formulation qui se veut à la fois un constat de ce qui est et une prescription de ce qui devrait être. Deuxièmement, une telle approche s'attache à saisir des discontinuités et des ruptures, tels les moments révolutionnaires, dont il faut rappeler qu'ils le sont aussi bien dans les pratiques que dans les idées. Les deux éléments, actualité et discontinuité, sont étroitement liés. J'en donnerai une illustration tirée de mes propres recherches réalisées au cours des trois dernières décennies. À la fin du XXe siècle, un phénomène s'est produit, l'émergence d'un gouvernement humanitaire, comme j'ai proposé de l'appeler en le définissant comme le déploiement des sentiments moraux dans les politiques contemporaines. J'en ai fait l'étude dans plusieurs domaines et sur plusieurs terrains. En France, des lieux d'écoute ont été installés dans les quartiers populaires pour permettre aux personnes dites exclues de faire entendre leur souffrance. Un fonds d'urgence sociale a été mis en place, demandant aux chômeurs et aux pauvres de justifier leur sollicitation d'une aide financière par un narratif s'apparentant aux suppliques d'autrefois. Une procédure spéciale a permis aux étrangers sans titre de séjour, atteints de maladies graves, ne pouvant faire l'objet d'un traitement approprié dans leur pays, d'être régularisés. Une attestation psychologique ou psychiatrique est devenue cruciale pour certifier l'état de stress post-traumatique dû aux violences subies par les demandeurs d'asile. Un candidat conservateur à l'élection présidentielle a même lancé pendant sa campagne un appel à la souffrance, à la France qui souffre. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, un faux témoignage faisant état du débranchement par des soldats irakiens de couveuses et de la mort de nouveau-nés dans les hôpitaux koweïtiens a suscité une vague nationale d'indignation et servi à rallier l'opinion à la guerre du Golfe. Au Venezuela, les images de la catastrophe causée par d'importants glissements de terrain ont permis de légitimer l'instauration d'un état d'urgence, accordant au président les pleins pouvoirs et autorisant une militarisation de la zone sinistrée. En Afrique du Sud, des photographies de nourrissons supposés infectés par le virus du sida ont été abondamment utilisées pour faire condamner le gouvernement accusé de retarder la prévention de la transmission néonatale de l'infection par un traitement qui s'est toutefois avéré mettre en danger la vie des mères. Dans les territoires palestiniens occupés, le témoignage des organisations humanitaires intervenant lors de l'intifada al-Aqsa a privilégié l'exposition de la vulnérabilité des jeunes lanceurs de pierres plutôt que leur résistance à l'oppression pour générer une empathie à leur égard au sein de la communauté internationale. Et encore aux États-Unis, un candidat républicain en campagne pour ses réélections à la tête du pays a revendiqué ce qu'il a appelé son conservatisme compassionnel. Aussi variés soient-ils ces éléments auxquels j'ai consacré une série d'enquêtes ethnographiques multisites, ont en commun de reposer sur ce qu'on pourrait appeler une configuration sémantique commune associant exclusion, souffrance, traumatisme, vulnérabilité, et de faire naître des sentiments moraux similaires créant les conditions de possibilité d'une raison humanitaire. Titre de l'ouvrage que j'ai consacré à ce thème. Or, au début du XXIe siècle, cette configuration sémantique s'est progressivement estompée. Les sentiments moraux se sont effacés, la raison humanitaire s'est trouvée démonétisée. Il était désormais question d'insécurité, de criminalité, de terrorisme. Il fallait plus de policiers, plus de militaires, plus d'armement. En France, les prérogatives des forces de l'ordre se sont étendues par voie législative. Les établissements pénitentiaires ont atteint des effectifs de prisonniers sans précédent. L'accès au statut de réfugié est devenu plus difficile. Le contrôle des frontières s'est durci. Le droit de manifester a été empêché et la liberté d'expression a été restreinte. Le déclin du gouvernement humanitaire et son remplacement par ce qu'on peut appeler alors un gouvernement sécuritaire ne se limite certes pas au cadre hexagonal. Significativement, l'opération Mare Nostrum, qui avait été initiée en Méditerranée par l'Union européenne pour secourir les exilés en perdition sur des embarcations précaires en Méditerranée, a été interrompue au bout d'un an, malgré les 150 000 personnes auxquelles elle avait apporté son assistance. Elle a été remplacée par l'opération de police maritime Frontex, dont une mission supposée est de venir en aide aux naufragés, mais qui pratique en fait souvent le refoulement des bateaux vers les côtes libyennes et turques, tandis que les organisations humanitaires qui affrètent des navires pour organiser les sauvetages en mer se sont vues accusées, sanctionnées et entravées par plusieurs pays européens. Significativement aussi, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies en charge des programmes d'assistance aux 6 millions de réfugiés de Palestine au Moyen-Orient, s'est trouvée interdite d'accès aux territoires occupés par Israël et a vu plusieurs de ses principaux financeurs occidentaux interrompre leur soutien sur la base d'accusations infondées au moment même où les besoins alimentaires et sanitaires de la population de Gaza étaient les plus aigus, tandis que la réponse à la famine provoquée consistait en distribution de quantités dérisoires de nourriture par une fondation privée états-unienne, s'accompagnant de massacres de civils faméliques par l'armée israélienne sur les sites de rassemblement. Ainsi, la logique sécuritaire a conduit d'une part à la criminalisation ou à l'interdiction pure et simple de l'action humanitaire et d'autre part à son travestissement par des simulacres d'assistance exposant les populations aidées à des dangers mortels. Analyser l'actualité au sens où l'entend Michel Foucault, c'est donc comprendre à un moment donné un certain état moral et politique du monde à travers des réseaux de sens, des discours de justification et des programmes traduisant concrètement ces réseaux de sens et discours de justification. Mais c'est aussi être attentif aux discontinuités, aux ruptures qui font en l'occurrence basculer d'un régime de compassion dans les années 80-90 à un régime de répression dans les années 2000-2010-2020. On comprend que la pensée foucauldienne se soit révélée pertinente pour les sciences sociales et les humanités. Je m'attacherai dans les leçons à venir à illustrer les dialogues qui se sont développés avec elle dans diverses disciplines et dans des contextes variés. Il s'agira d'exemplifier son empreinte sur la façon dont des chercheuses et des chercheurs voient le monde, conçoivent leurs objets, déploient leurs méthodes. Je ne me livrerai donc pas à une stricte exégèse de l'œuvre foucauldienne, ce à quoi nombre d'autrices et d'auteurs se sont employés et continuent de s'employer. J'en proposerai plutôt, à partir d'une lecture attentive, une mise en perspective autour de quelques grands thèmes, la folie, la prison, de quelques concepts critiques, vérité, humanisme, et de quelques positionnements autour de la morale, de la politique, de l'engagement. Sans éluder toutefois certaines absences, puisque le cours s'appelle présence, et ce qu'elle révèle. J'examinerai également les influences qu'elle a exercées, les débats qu'elle a suscités, les critiques qui l'ont accompagnée, tous éléments auxquels j'incorporerai parfois certaines de mes recherches et réflexions, pour autant qu'elles entrent en dialogue avec ces questions, ces méthodes et ces théories. L'engagement intellectuel, pour conclure, intellectuel et matériel que représente la réalisation d'un cours comme celui-ci, ne peut en effet se comprendre qu'au regard de la signification qu'il revêt pour celle ou celui qui le prépare. Si j'ai entrepris ce travail, c'est qu'au-delà de la portée considérable qu'à l'œuvre de Michel Foucault dans l'histoire de la pensée contemporaine, comme je l'ai rappelé, elle a représenté pour moi aussi une source d'inspiration, ou pour dire plus simplement et plus justement, une présence. En 2011, les éditions de Lerne lui consacrèrent l'un de leurs volumineux cahiers en demandant aux autrices et aux auteurs d'écrire sur la relation qu'ils avaient eue avec elle et avec son auteur. Ma contribution était intitulée « Comment j'ai écrit certains de mes textes ?» ce qui était évidemment une paraphrase du titre du célèbre livre de Raymond Roussel à qui précisément Michel Foucault avait consacré un ouvrage en 1963. J'y explique qu'aussi loin que je me souvienne, la lecture de cette œuvre de Michel Foucault m'a accompagné dans mon travail d'écriture. Cette compagnie bienveillante a pris au fil du temps des formes cependant variées, parfois singulières. Lorsque j'écrivais ma thèse de médecine, dont le sujet tranchait fortement avec les conventions de cet exercice, puisque je m'étais engagé assez témérairement dans une histoire et une sociologie des politiques de coopération sanitaire en Tunisie depuis l'indépendance du pays, j'avais une sorte de rituel. Chaque fois que je me mettais à rédiger, je lisais quelques pages de l'histoire de la folie ou de naissance de la clinique, ouvrage que j'ouvrais plus ou moins au hasard. Je n'avais nulle intention d'y puiser des idées, car mon sujet ne s'y prêtait guère. Je cherchais simplement une forme de pensée libre, alerte, déconcertante, une nourriture de l'esprit. Plus tard, mes travaux sur la généalogie de l'espace politique de la santé m'amenèrent à une lecture plus traditionnelle et plus studieuse des ouvrages qui me permettaient à la fois de discuter leurs analyses et d'enrichir les miennes, notamment autour du biopouvoir et des biopolitiques dans la volonté de savoir et le cours « Il faut défendre la société ». Et plus tard encore, mes longues enquêtes ethnographiques sur les forces de l'ordre et la condition carcérale me donnèrent l'occasion de reprendre la lecture de « Surveiller et punir » qu'un commissaire de police me confia avoir étudié avec intérêt à l'université avant de rejoindre son premier poste. Et je découvrais également le cours « La société punitive » dont le thème de la guerre civile comme matrice du fonctionnement pénal me parut une provocation bienvenue. Au cours de la période récente, je suis devenu un lecteur un peu moins assidu. Lorsque mes recherches sur l'exil et la frontière m'éloignaient des thèmes foucauldiens, et plus critique aussi, lorsque j'en explorais les zones d'ombre et les points aveugles autour de la vie, des inégalités ou de la violence. Un texte m'a cependant accompagné ces derniers temps, aussi bien lorsque j'ai préparé la leçon inaugurale sur les sciences sociales partant de crise, que lorsque j'ai écrit le livre sur le consentement à l'écrasement de Gaza, c'est le courage de la vérité. Cet ultime cours est un remède contre le mensonge, les menaces, les diversions. Une sorte de rappel à l'ordre éthique de ce qui, en dernier ressort, compte. Avec lui, j'ai retrouvé cette pratique d'effleurement méditatif de l'œuvre. C'est donc lui que j'ai placé au commencement du cours. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.